Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui traiterait du 9e chapitre de l'évangile de Matthieu. D'abord, j'aimerais vous dire que je prends énormément de plaisir à préparer ces mini-études bibliques. Tout comme vous, je connais les évangiles, mais je les relis, je les médite et je les rumine dans mon cœur en quelque sorte. Et j'y découvre chaque jour de nouvelles merveilles. Ce n'en est pas autrement avec le chapitre que nous allons regarder aujourd'hui. En général, nous entendons ou lisons les récits bibliques par petits bouts, ce qui est très bien, puisque ça nous permet d'aller en profondeur. En effet, chaque mot a sa propre raison d'être et pointe sur quelque chose qui nous concerne. Mais voir un chapitre en entier, c'est différent. Tout à coup, on y découvre une vérité plus ample et non moins profonde. Ça me fait toujours penser à ces tableaux pointillistes. De près, on n'y voit que de tout petits traits ou des tout petits points de toutes les couleurs. C'est très beau et ça fait rêver. Mais en s'éloignant, peu à peu, on reconnaît des formes, de nouvelles harmonies et finalement un tableau qui nous raconterait une merveilleuse histoire que nous n'avions pas pu découvrir lorsque nous étions si près. Ce chapitre 9 me fait un peu cet effet. De près, nous y trouvons des guérisons. La guérison d'un homme paralytique, d'une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans déjà, ainsi que de deux aveugles. On y trouve également l'appel de Matthieu et le déjeuner de Jésus avec des hommes de mauvaise réputation et les responsables religieux qu'il critiquait pour cela. Et tout à la fin de ce chapitre, nous retrouvons Jésus ému et plein de compassion pour cette foule de gens un peu perdus dont nous faisons partie. Comme nous l'avons vu il y a une semaine, les chapitres 8 et 9 nous décrivent le pouvoir du Christ. En effet, par ses miracles, Jésus prouve qu'il est le Messie. Les scribes et les pharisiens l'observaient de près afin de pouvoir tout rapporter au Sanhédrin à Jérusalem. Le Sanhédrin était le tribunal suprême qui interprétait et tranchait la loi des Israélites à partir de ses sources écrites et orales. Nous avons vu aussi que Jésus avait accompli un miracle dit messianique. Il avait guéri un lépreux juif. Dans ce chapitre actuel, Matthieu nous raconte comment Jésus chasse un démon muet. Ce miracle-ci, selon la loi rabbinique, faisait lui aussi partie des trois miracles que seul pourrait accomplir le Messie. Pour chasser un démon, les rabbins suivaient un processus bien défini. Il devait d'abord demander son nom au démon. Ce n'est qu'une fois qu'il savait comment celui-ci s'appelait qu'il pouvait le chasser. C'est pourquoi le fait de chasser un démon muet, qui ne pouvait donc pas dire son nom, était considéré comme miracle messianique. Cela explique la réaction de l'entourage de Jésus. Je lis le verset 33. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait: jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Voilà. Le troisième et dernier miracle messianique n'est compté que par Jean. Il s'agit de la guérison d'un homme aveugle de naissance. C'est ainsi que le Christ a rempli les exigences messianiques également aux yeux du Sanhédrin. Mais c'est quelque chose d'autre que j'aimerais partager avec vous et qui me touche particulièrement. Car aussi bien les miracles décrits dans ce chapitre que les paroles de Jésus concernant les pécheurs nous montrent ce qui arrive lorsque la vie touche la mort. Mort, où est ta victoire? S'écriait Paul dans sa première lettre aux Corinthiens et poursuit: Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce chapitre de Matthieu, nous sommes effectivement témoins de ce qui arrive lorsque la vie triomphe de la mort, de la maladie et du mal. C'est comme une lumière cinglante qui tombe dans la nuit profonde. Nous cherchons en vain une clé à toutes ces guérisons. Jésus ne touche pas toujours les malades. Pas toujours la Bible ne mentionne la foi des malades. Jésus ne fait ni ne dit à chaque fois qu'il guérit quelqu'un la même chose. Mais lui, il est le chemin, la vérité et la foi, et il illumine tout ce qu'il approche. Et cette vie qu'il répand brille déjà dans l'ici-bas, mais sa lumière ne sera complète que dans l'éternité. C'est aussi ce que ce chapitre illustre. Voyons l'histoire du paralytique. Jésus est chez lui à Capharnaüm. Luc ajoute à cette histoire que les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là aussi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Il faut noter que Jérusalem se trouvait quand même à 3 jours de marche de Capharnaüm. Et Marc écrit dans son 2e chapitre, versets 1 et 2, à ce sujet, je cite « Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il leur annonçait la parole. » Jésus était donc en train d'enseigner du, entre guillemets, « beau monde ». C'était du sérieux. Et c'est là qu'arrivent 4 hommes qui firent descendre du toit un paralytique, juste devant les pieds de Jésus. Je trouve la situation assez cocasse. J'aurais aimé voir la tête des docteurs de la loi à ce moment-là. Disons que la réalité fit intrusion dans la religion. À coup sûr, ça a choqué les scribes et les pharisiens. Qu'est-ce que ce paralytique avait-il à faire ici? On parlait de religion et voici qu'arriva un homme qui n'avait en tête que sa situation personnelle. Ça me parle assez. La religion est si souvent absente dans nos vies pratiques. Le dimanche, on va à l'église et lundi, on reprend son train-train quotidien. Mais c'est pas ce que veut Jésus. Il aurait très bien pu chasser ces hommes de sa maison, d'autant plus qu'ils avaient découvert le toit pour pouvoir entrer. Mais le malheur de l'homme fait partie inhérente de ce que nous apprend Jésus. Ça peut ne pas plaire à certains qui préfèrent vivre de manière à ce que Jésus ne se mêle pas trop à leur vie. Seulement, ça ne correspond pas à ce que nous enseigne la Bible. Jésus veut toucher nos ténèbres et les rendre lumineuses. C'est très dérangeant, comme l'était le paralytique et ses amis qui interrompirent la discussion entre spécialistes et théologiens. Mais c'est le seul moyen de vivre sa foi en Christ. Et là, Jésus dit au malade, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et ce n'est que pour démontrer qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, les nôtres aussi, parce qu'il est Dieu, que Jésus va guérir le malade de sa paralysie. La rémission des péchés est clairement et infiniment plus importante que de pouvoir marcher. Je sais que ça peut vraiment choquer. Le fait de recouvrir sa mobilité est considéré généralement comme primordial et ça montre à quel point nous sommes fixés sur la vie sur Terre. Et pourtant, celle-ci ne dure que quelques années, ensuite vient l'éternité. Si nous en étions vraiment conscients, n'affronterions-nous pas les problèmes différemment ? J'ai choisi cette anecdote pour illustrer comment Jésus donne la vraie vie. J'aurais aussi bien pu choisir la guérison de la dame qui perdait du sang, le sang étant symbole de la vie. Elle perdait donc quotidiennement un peu de sa vie, et ceci depuis 12 ans. Jésus la guérit. Il toucha aussi l'enfant mort, qui ressuscita. Et les aveugles, qui étaient dans l'obscurité et qui recouvraient la vue. Ou le démoniaque qui put enfin s'articuler et sortir de la prison de son mutisme. Il les toucha tous de sa parole qui est vie et vérité. Et n'oublions pas les pécheurs qui entouraient le Christ. Après avoir appelé Matthieu à le suivre, celui-ci invita Jésus, sans doute pour le présenter à ses amis, qui étaient, tout comme lui, je cite, des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est Matthieu lui-même qui le dit, moi je fais que citer. Aujourd'hui on parlerait sans doute de racaille. Et tout comme les malades et les possédés, Jésus laisse entrer sa lumière dans leurs ténèbres. Aux pharisiens, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je préfère la traduction Chouraki ici. Elle dit, ceux qui sont forts n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui ont mal. Je répète cette phrase du Christ parce qu'elle est trop importante. Ceux qui sont forts n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui ont mal. Est-ce que vous voyez ces deux mondes qui s'affrontent? Les docteurs de la loi qui ont confiance en eux et en ce qu'ils sont en mesure d'accomplir, et ces faibles, ces ratés aux yeux du monde qui misent sur la grâce de Dieu. C'est d'ailleurs grâce à ce Matthieu qui faisait part de la raca et aux yeux des docteurs de la loi que nous apprenons tant de choses au sujet de Jésus, notre Sauveur. Jésus est très clair lorsqu'il dit que nous ne pouvons pas nous alimenter de deux sources à la fois, de la source de notre auto-justice et de la source de sa grâce. Nous devons faire un choix. Il compare cela à un vieux et à un nouveau tissu. Le vieux tissu, c'est notre ego. Le nouveau tissu, c'est la grâce de Dieu. Si nous misons vraiment sur le Christ, cela déchira notre vieil ego. Enfin, c'est cette rupture qui produit une vie nouvelle. Dans la semaine à venir, j'aimerais que nous nous souvenions que Jésus veut remédier à notre détresse. Il est le médecin des faibles et de ceux qui ont mal. Et partout où sa lumière touche notre douleur, il remplace celle-ci par la vie et l'espoir. Ne restons donc pas fixés sur nos problèmes ici-bas, mais levons le regard vers celui qui veut illuminer notre quotidien pour nous donner la vie éternelle. Le Seigneur est bon et plein de compassion pour nous. Donnons-lui notre confiance. Je vous souhaite une excellente semaine. Que Jésus vous bénisse.